Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette édition spéciale de Grand Bien vous fasse jusqu'à 11h. Cette semaine, nous avons tous vu notre vie quotidienne bouleversée. Et après ces premiers jours de confinement, seuls, en couple ou en famille, nous sommes nombreux à nous demander comment nous allons pouvoir tenir dans la durée, comment faire face à la solitude ou à la promiscuité. Il y a peut-être des réponses à aller chercher du côté des pros du confinement. Je veux parler des astronautes, des navigateurs en solitaire ou encore des sous-marins. Nous allons profiter de leur expérience et de leurs conseils tout au long de cette émission. L'astronaute Jean-François Clairvoy nous racontera comment il s'est préparé pour ses missions en orbite. Le skipper François Gabart nous dira comment il a fait face à la solitude dans le cockpit de son bateau pendant de longues semaines. Et puis la journaliste Nathalie Guibert reviendra sur le mois qu'elle a passé dans un sous-marin nucléaire d'attaque avec tout son équipage. De votre côté, vous aussi, intervenez au 01 45 24 7000 pour dialoguer avec eux et puis aussi pour nous raconter, vous aussi, comment vous vous organisez dans cette situation de confinement. Dites-nous ce qui vous aide à tenir ou ce qui vous semble plus difficile à surmonter. Pour éclairer nos discussions, nous sommes également en compagnie jusqu'à 11h de Florian Ferreri, psychiatre spécialisé dans le diagnostic de la dépression et de l'anxiété, et Sophie Bécherel de France Inter qui pourra notamment répondre à vos questions sur l'intérêt de ces mesures de confinement. Séparés physiquement, certes, mais plus que jamais ensemble sur France Inter pour affronter cette épreuve et se soutenir les uns les autres. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Daniel Fievé.
Bonjour Jean-François Clairvoy.
Bonjour.
Vous êtes astronaute à l'Agence spatiale européenne. Votre dernier ouvrage s'intitule « Histoire de la conquête spatiale » aux éditions de Beuk. Alors vous avez effectué 3 missions dans l'espace à bord de la navette américaine. Vous avez donc connu des situations de confinement extrêmes, là où on ne peut pas ouvrir la porte même pour aller faire quelques pas en orbite autour de la Terre. Comment avez-vous vécu l'enfermement et la promiscuité lors de ces missions, Jean-François ?
Alors, nous sommes préparés, donc nous savons à l'avance que le volume va être réduit et je crois que la navette spatiale a le record de densité en confinement puisque nous pouvons être à 7 dans un volume égal à 2 fois celui d'un cockpit d'avion de ligne. Donc c'est assez effroyable quand vous regardez des chiffres comme ça, mais c'est vrai que grâce à la pesanteur, la sensation d'être confiné, l'inconfort en fait est diminué. On a l'impression d'être dans un volume entre 2 et 3 fois plus grand que la réalité. Mais vous savez, les astronautes ne sont pas à la recherche du confinement. Mais par contre, nous, les astronautes sont des explorateurs, ils ont le goût de l'aventure, ils ont envie de faire des choses nouvelles, d'explorer. Mais le confinement est un moyen de réussir. On ne cherche pas le confinement, mais il est obligatoire. Dehors, il fait entre moins de 100 et plus de 100 degrés selon que vous soyez à l'ombre ou au soleil. C'est le vide total. L'environnement est hostile, très hostile, extrême. Le seul moyen de survivre, de pouvoir travailler, c'est d'être confiné dans une bulle de gaz qui nous protège. Donc le confinement, c'est la configuration de base de toute mission spatiale, parce que l'environnement est extrême à l'extérieur.
Ça fait partie des choses que vous appréhendiez avant de partir, ou ça n'était pas ce qui vous faisait le plus peur, ce huis clos avec vos 3 coéquipiers dans ce petit habitacle ?
Alors, je n'ai jamais connu de collègues, ni moi-même, ayant eu la peur ou une crainte de ce confinement qui allait arriver. Et je pense que c'est parce que nous passons à travers un filtre, la sélection, qui se charge de vérifier si nous avons une personnalité, un caractère qui est plutôt bien fait pour ce type d'activité. Donc, lors de tests de sélection, il y a des tests de dynamique de groupe, il y a aussi des tests de confinement. Donc, si on m'a sélectionné, même si moi je ne le savais pas avant, n'ayant jamais été confiné dans mes travaux précédents, mes activités précédentes, on m'a dit, écoute, tu es bon pour être astronaute parce qu'on a vérifié que tu n'étais pas claustrophobe ni anxieux face au confinement ou au travail en équipe. Confiné, parce que on peut être confiné seul, on peut être confiné à plusieurs dans un petit volume. Donc, c'est pas la même chose.
Il consiste en quoi, les tests, pour voir si vous étiez apte au confinement, pour savoir? Alors, nous, on est en train de tous vivre une sorte de test grandeur nature, mais alors, les tests qu'on vous a appliqués, quels étaient-ils?
Alors, arrivé à la NASA, on m'a mis dans une sphère, un ballon.
Ouais.
Un ballon qui fait à peu près 1 mètre de diamètre, donc c'est tout petit. Complètement fermé, il y a une grosse fermeture éclair. On m'a dit voilà, on te met dedans, on referme, on te demande juste une chose, c'est de ne pas t'endormir, on te dit pas combien de temps tu vas rester, et il y aura un exercice à la fin. Donc on rentre là-dedans, et on est, je vous dis, dans une toute petite bulle qui est à peine plus grande que celle du corps humain recroquevillé, et j'attends. J'attends environ 20-25 minutes, et puis à la sortie, on m'a simplement demandé de remplir un papier en me demandant de décrire ce que j'avais ressenti, ce à quoi j'avais pensé pendant mon confinement. Mmh. Voilà, c'est en fait un test surtout de claustrophobie plus que de confinement. Ouais. Mais une fois sélectionné, lors de l'entraînement, surtout pour les vols de très longue durée, on a maintenant des tests qui consistent à la fois à confiner un équipage potentiel futur, mais aussi pour les aider à mieux se connaître eux-mêmes entre eux. Et l'Europe, alors chaque pays, chaque agence spatiale a son concept d'exercice de confinement. En Europe, on a développé ce qu'on appelle le test d'entraînement dans des grottes en Sardaigne. Ah oui. Où pendant une dizaine de jours, 5 à 6 personnes, astronautes, vont être confinées en milieu souterrain qui inclut de la plongée. Et il y a au moins une journée de 24 heures sans aucune lumière. Mmh. Donc vous êtes à la fois confiné, vous ne voyez rien, vous devez être en connexion filaire ou physique en tenant votre collègue en permanence pendant 24 heures, sans pouvoir utiliser le téléphone portable ou même la montre pour essayer d'éclairer un petit peu.
Ouais. Donc, finalement, ça nous permet de relativiser un peu ce qu'on vit en ce moment, hein, ce qu'on vous a fait subir, Jean-François Clairvoy, sauf que vous étiez peut-être plus volontaire et plus partie prenante dans cette histoire. Alors, on imagine que l'épreuve que nous traversons tous collectivement aujourd'hui est quand même plus facile à supporter pour vous, compte tenu de votre expérience et de ces entraînements. C'est le cas. Comment se sont passés pour vous ces 5 premiers jours de confinement sur Terre?
Oh ben j'ai la chance d'avoir une possibilité de télétravail, donc avec un ordinateur, avec le téléphone, de me tenir informé grâce aussi à Internet, à la radio, à la télévision, et de pouvoir échanger avec mes proches, avec des livres à disposition, de quoi faire du sport, de la gymnastique dans notre salon. Donc et le ravitaillement n'est pas limité, donc ça c'est quelque chose qui est important. Ouais. C'est d'abord pouvoir vivre. Vous savez, les besoins fondamentaux de l'humanité, c'est en premier l'eau, ça c'est symbolique pour pouvoir boire, vivre, cultiver. En deuxième, c'est l'abri, avant même l'énergie, l'abri, depuis le début, depuis les temps préhistoriques. Donc les hommes préhistoriques, la première chose qu'ils cherchaient, c'était des grottes, des endroits où ils puissent s'abriter de menaces extérieures. C'est-à-dire que le confinement, en soi, ça peut être vu comme une contrainte, mais si on prend du recul, ça a toujours été une solution à un problème. Depuis le début de l'humanité et du vivant sur Terre, nous sommes, nous, humanité, confinés à la planète Terre, parce qu'on ne peut pas sortir, ou très difficilement, encore maintenant. Elon Musk rêve d'une espèce multiplanétaire avant la fin de son existence, donc il rêve de coloniser Mars dans les 10-20 ans qui viennent, mais ça n'arrivera probablement pas dans ce temps-là. Mais un jour, les humains apprendront à vivre ailleurs, dans un lointain futur, dans des siècles ou des millénaires, probablement. Mais nous sommes confinés à la Terre. Le vaisseau spatial, c'est une militaire. Nous sommes confinés, mais c'est pas une contrainte. C'est grâce, vous savez, notre vaisseau spatial, la première fois qu'on le voit, on le voit comme un vaisseau qui va nous exposer au danger. Mais lorsqu'on arrive vers le pas de tir, le jour de décollage, on est prêt, on a appris à connaître notre vaisseau. On l'aime ce confinement, parce que on sait que c'est les conditions qui vont nous permettre de vivre en sécurité.
Florian Ferreri, vous êtes avec nous également. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre dans le service de psychiatrie et de psychologie médicale de l'hôpital Saint-Antoine, spécialisé dans le diagnostic de la dépression et de l'anxiété. Alors là, le discours de Jean-François Clairvoy est très positif. Alors on sent que psychologiquement, il a été, bon déjà il devait y avoir des prédispositions, mais il a été particulièrement rompu à cette épreuve du confinement. Quelles sont en fait les principales difficultés psychologiques dans cette épreuve ?
Alors le discours est positif, mais c'est normal qu'il le soit, et il faut rappeler, c'est important, c'est que nous sommes capables de nous adapter au confinement. La question, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face au confinement. Au confinement, ça a été dit, la sélection, la mise en situation, ça on n'a pas pu le faire. Donc les enjeux, ils vont être un petit peu différents en fonction de la personnalité de chacun, en fonction de la structure de son environnement. Tout le monde n'a pas une maison avec un jardin, certains sont dans des très petits espaces. Donc il va falloir adapter un petit peu les choses aux configurations des familles. Pour autant, il y a quelques grandes règles qui peuvent aider à supporter le confinement. Et si on ne les applique pas, le risque, c'est une augmentation de l'irritabilité, de la tension intérieure, des conflits. Ça, c'est quelque chose qui a été bien objectivé dans plusieurs études. Ce qui a été dit, c'est essayer de garder des routines ou d'en inventer de nouvelles. Ça, je pense que c'est peut-être le premier conseil à apporter. Le réveil le matin, se préparer, même si on va pas travailler, puis on va quand même travailler pour certains en télétravail. La classe pour les enfants, elle commence à l'heure quasiment habituelle parce que les devoirs et les leçons arrivent. Et ça, c'est une sorte d'habitude que nous avons qu'il faut essayer de préserver.
Oui. Jean-François Clairvoix, ces conseils, on vous les donne, à vous, astronautes, avant de partir. Alors, soit dans la navette, soit à bord de la Station Spatiale Internationale. Il faut avoir un emploi du temps réglé, minuté, avoir un peu des opérations à effectuer en routine. Ça aide à tenir?
En fait, c'est pas vraiment des conseils, puisque c'est de base la nature de notre mission. La première chose, c'est le plan de vol et le but. On a un objectif, par exemple. Votre mission, réparer le télescope spatial Hubble. Voilà, ça tient en une phrase. C'était notre sens de l'existence le matin au réveil, pendant l'entraînement, pendant la mission. On pense pas au confinement. On pense au but de la mission. Après, bien sûr, il faut être organisé. Parce que dans l'espace, on est dans un petit volume, on manipule en permanence des objets, des outils. Donc il faut être organisé pour ne pas perdre les choses. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir perdu ne serait-ce que son stylo ou son appareil photo ou les piles pour faire fonctionner la caméra. Tous les astronautes ont perdu des objets en milieu confiné, en apesanteur, les premières heures de leur première mission. Donc, je peux vous dire qu'on apprend très vite à être organisé. Il faut être organisé dans le temps, et nous, on a un plan de vol. On a un plan de vol qui dit qui fait quoi quand, et ça inclut le sport, ça inclut un peu de moments de détente, ça inclut le sommeil, les temps pour les repas. Et bien sûr, il faut se tenir informé. C'est très important, lorsqu'on est confiné, de garder un lien avec l'extérieur, si on le peut, évidemment. Je pense aux sous-mariniers qui ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur, mais dans l'espace, comme nous actuellement ici, eh bien, on peut se tenir informé de ce qui se passe, comment évolue la situation, pour savoir à quel moment on va pouvoir sortir. Par exemple, lors du retour, vous savez, ceux qui sont revenus de la Lune étaient confinés aussi après le vol pour ne pas contaminer les personnes à l'extérieur. Pendant 17 jours, l'équipage d'Apollo 11 est resté dans une sorte de bus aménagé en mini-appartement très restreint, mais ils savaient pourquoi. Voilà. Et en se tenant au courant, eh bien, on voit le moment où ça va se terminer.
Sophie Bécherel de France Inter, de la rédaction de France Inter, est à mes côtés. Bonjour Sophie.
Bonjour. Jean-François Clairvoix, dans les missions longues, 6 mois, voire 8, 12, dans la Station Spatiale Internationale, est-ce qu'il y a quand même de légères différences au sein de votre communauté d'astronautes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment où quand même le confinement semble un peu plus difficile à supporter? Et est-ce que, du coup, une solidarité se met en place ou bien des conseils?
Alors oui, sur les vols de longue durée, c'est différent parce que c'est d'abord dans une station spatiale qui est beaucoup plus volumineuse que les deux petits cockpits de la navette. Donc c'est l'équivalent d'un 400 mètres carrés pour 6 personnes. Et chacun a son petit habitacle perso. Alors c'est l'équivalent d'un mètre carré et demi au sol. Imaginez un appartement qui fait juste un mètre et demi carré. Mais quand vous flottez en apesanteur, c'est là-dedans que vous dormez, que vous faites vos emails, que vous échangez avec votre famille, que vous lisez, vous regardez des films. Donc, les astronautes dans l'ISS peuvent s'isoler quand ils le désirent. Ils ne sont pas en permanence les uns sur les autres. En plus, ce qui est important à savoir, quelque part inconsciemment, c'est que à tout moment, l'équipage dispose d'un scénario de retour d'urgence sur Terre en cas de pépin. Mais on n'a jamais eu à le réaliser depuis l'ISS, ni depuis la station Mir, qui a connu en milieu confiné les pires urgences qui puissent arriver, ils sont de 3, et c'est les mêmes dans les sous-marins, c'est le feu à bord, l'air toxique ou la fuite. Dans le sous-marin, c'est l'eau qui rentre.
Mais Jean-François, est-ce qu'il y a déjà eu, alors effectivement, il n'y a pas eu de gros incidents techniques, mais est-ce qu'il y a déjà eu des bagarres à bord? Est-ce qu'il y a déjà eu des moments où les astronautes se sont tapés dessus?
Alors, c'est pas arrivé depuis longtemps, en tout cas jamais dans l'ISS, parce qu'on a beaucoup appris avec les premières missions de longue durée russes dans les années 70. Il y a la fameuse affaire Almaz, par exemple, où des astronautes, ils étaient deux à bord, ils sont tellement chamaillés, le sol s'en est rendu compte, et leur a demandé une tâche qui était un peu débile pour les faire se rebeller ensemble contre le sol. Voilà. Ouais. Donc, ils se sont remis ensemble, mais il y a eu des problèmes dans le passé assez sérieux, mais quand vous dites qu'il n'y a pas eu d'urgence, si, j'étais en train d'écrire que dans la station Mir, la station Mir a connu un feu presque catastrophique, une fuite d'air presque catastrophique, deux conditions parmi les trois pires qui puissent arriver en milieu confiné. À chaque fois, l'équipage a sauvé sa peau parce qu'ils sont bien entraînés, parce que le système est bien conçu, parce que ils ont un centre de contrôle qui les aide à distance. Donc le milieu confiné, il a aussi ses inconvénients, ses risques de... les conséquences de certains types de pannes, comme le feu, s'il y a le feu, vous ne pouvez pas sortir. Donc il faut le régler en interne. Et pour ça, nous sommes entraînés. Donc nous sommes entraînés à accepter le confinement et aussi à gérer des crises internes au confinement qui sont arrivées dans le passé, mais qui n'ont jamais... eu pour conséquence une perte d'astronautes.
Nous allons profiter de vos conseils, Jean-François, dans la suite de cette émission. Et pour vous, amis auditrices et amis auditeurs, comment se sont passés ces premiers jours de confinement? Avez-vous des astuces qui vous aident à supporter la solitude ou la promiscuité? Des interrogations sur votre capacité à tenir dans la durée? Intervenez et racontez-nous au 0... Vous avez le numéro, Sophie
01 45 24 70.
C'est ça, bien sûr. Et sur la page de l'émission sur franceinter.fr et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Sophie Vaux, Julia Macarez m'ont aidé à préparer cette émission et c'est Benjamin Riquet qui la réalise avec à la technique Selim Gheribi. C'était David Walters, Criez-moi.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et nous nous intéressons aux effets psychologiques du confinement et aux moyens de s'adapter à cette situation avec des experts en la matière. Nous avons l'astronaute Jean-François Clairvoy avec nous. Nous aurons bientôt en ligne François Gabart, skipper et navigateur, pour leur adresser une question ou nous raconter votre nouvelle vie de confiné. 01 45 24 7000. Également avec nous pour vous répondre le psychiatre Florian Ferreri et Sophie Becherel de la rédaction de France Inter. Et nous accueillons notre première auditeur, Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Alors,
merci de prendre mon témoignage.
Ben merci de nous appeler. Vous avez peut-être une expérience de solitude à partager avec nous.
Oui, moi je suis un fan de la randonnée des régions polaires. Donc depuis plusieurs années, je pars au nord de l'Islande, en Laponie, au Spitzberg ou autre. Et dans ces zones, je vis l'expérience d'une solitude extrême, puisque finalement, il y a personne à la ronde à plusieurs dizaines de kilomètres. Et en plus, il faut traverser ces zones avec une certaine hostilité. Et quand j'ai commencé ces randonnées, je me suis aperçu que finalement, une des choses qui permettait de traverser la solitude et de ne pas tomber dans des difficultés psychologiques trop fortes, c'était de s'organiser, d'avoir des rituels. Par exemple, quand vous êtes en randonnée polaire, vous devez être super méthodique. Le matin, vous partez, vous pliez votre tente, vous rangez vos affaires, vous vous organisez. Vous vous donnez un certain nombre d'heures de marche, vous vous arrêtez, vous vous nourrissez au bon moment. Et je me dis que finalement, peut-être aujourd'hui, dans la période que nous vivons, on pourrait transposer ça et se dire qu'une façon de rester à peu près à l'équilibre pour les personnes qui sont confinées, et notamment les personnes qui sont seules, c'est d'essayer de garder des rituels, un peu comme si nous étions dans la vraie vie de tous les jours. Mmh. Exemple très concret, là nous sommes samedi, c'est le week-end, on peut se donner la possibilité d'être entre guillemets un peu plus libre que d'habitude, de se lever un peu plus tard, de traîner en pyjama, pourquoi pas, de prendre du temps. Mais dès lundi matin, mon conseil, ça serait, c'est lundi, une nouvelle semaine recommence, mettons notre réveil, mettons-nous au travail, habillons-nous comme si nous allions travailler et donnons-nous des rituels toute la journée qui vont nous permettre de traverser cette période sans être trop désynchronisé.
Vous-même, vous avez commencé à expérimenter cette technique pendant ces premiers jours de confinement, Jean-François ?
Tout à fait. D'ailleurs, dès le premier jour, nous sommes une famille avec deux jeunes enfants. Donc, dès le premier jour, nous avons fait une sorte de conseil de famille qui a permis d'expliquer aux enfants comment nous allions nous organiser avec des règles qui ont été expliquées et cooptées entre tous. Par exemple, le week-end, on a le droit d'être un petit peu plus tranquille, de se laisser aller. Par contre, la semaine, il y a des tranches de travail, il y a des plages horaires pour se reposer, il y a des plages horaires pour apprendre, il y a des plages horaires pour sortir. Nous avons la chance d'avoir un jardin, mais la journée est vraiment organisée de façon méthodique, ce qui permet de garder des repères dans une période où les repères sont en train d'exploser dans tous les sens. Mmh.
Florian Ferreri, qu'est-ce que vous pensez du témoignage de Jean-François ? Il a tout compris, non ? Il est parfait ?
Ah oui, alors moi je suis pas là pour mettre des notes, mais si vous avez quand même mettre une, effectivement c'est excellent. Alors après c'est vrai que pour certaines personnes on a un agenda trop strict aux presses, mais dans la règle d'avoir des rythmes et de se garder même en confinement le week-end, c'est quelque chose qui va être important. Parce que beaucoup de témoignages de personnes en confinement ont dit mais attendez, certains ont cru que c'était les vacances, mais ça ne l'était pas. On avait le télétravail, on avait les enfants à surveiller, on avait leur angoisse qu'il fallait apaiser. Et effectivement, là, on est sur le week-end, c'est un rythme qui doit être imposé, mais qui doit être différent. Mais ce qui est important aussi, et ça Jean-François Clairvoy l'a dit, c'est la question du but. Donc que ce soit l'expédition polaire ou la mission spatiale, là, le but qu'on a, c'est de se protéger contre l'infection. Et c'est vraiment, et je reprends les paroles de Jean-François Clairvoy, un moyen de réussir. C'est presque une chance d'être confiné. Alors, je le dis un petit peu de façon excessive, mais quand je vois, moi qui travaille à l'hôpital, des personnes qui viennent travailler, et quand je vais faire quelques cours, des personnes qui sont obligées de travailler, ben elles vivent pas le confinement, mais elles vivent un autre risque. Donc, il faut se rendre compte aussi que d'être confiné, c'est le moyen actuel le plus sûr pour se protéger. Et ça, peut-être, ça peut faire apaiser les frustrations liées au confinement. Mmh.
Merci, hein, Jean-François, notre explorateur polaire, pour votre témoignage. Une dernière question, d'ailleurs, Jean-François. Vous dites, je suis un adepte de ces randonnées. Du coup, là, ça doit vous manquer quand même, le grand air.
Oui, clairement, ça manque un petit peu. Encore une fois, j'ai la chance d'avoir un peu d'extérieur. Je vis en maison avec ma famille, donc ça change beaucoup de choses.
c'est pas du tout la même chose d'être confiné avec un jardin que d'être confiné dans un appartement sans pouvoir sortir. Mais là aussi, je reprends les propos qui viennent d'être tenus et qui me semblent très justes. Nous avons ensemble une épreuve à traverser. Et aujourd'hui, être confiné, c'est pas une vue de l'esprit, c'est la seule façon que nous avons de nous en sortir collectivement et de limiter les ravages de cette épidémie. Donc c'est comme si nous avions un moment difficile à passer collectivement. Il est clair qu'un jour, nous sortirons de ce moment difficile et que nous reprendrons une vie entre guillemets normal, et je peux vous dire que moi je serai un des premiers à repartir sur les chemins et dans les régions polaires.
Un grand merci à vous Jean-François.
Merci à vous, bonne continuation.
Merci. Jean-François Clairvoy, l'importance de la verdure, il paraît qu'à bord de la Station Spatiale Internationale, il y a ces expériences, hein. Ça c'est pas il paraît, c'est sûr, on fait pousser des salades, on fait un peu d'expérience sur la végétation, et il paraît que les astronautes qui sont censés s'occuper de ces expériences, ils trouvent un réconfort, ça les rassérène de faire pousser ces quelques plantes vertes au milieu de la Station Spatiale Internationale. Est-ce que certains collègues à vous vous l'ont confirmé ?
Oui, bien sûr. Observer, c'était le cas aussi dans mon deuxième vol, observer des plantes qui croissent à partir d'une graine et qui forment des feuilles, puis des fleurs, parce qu'il n'y a pas eu de la salade, qu'ils ont même mangé et ils l'ont déclaré bonne, d'ailleurs, au goûter. Mais des fleurs, voir une fleur qui s'épanouit, alors elle est un peu biscornue parce que la gravité n'est pas là pour bien l'orienter, mais c'est toujours rassurant de voir du vivant autre que le vôtre qui évolue et qui s'adapte. C'est extraordinaire, comme on le disait tout à l'heure, la capacité du corps humain et du vivant en général de s'adapter à des conditions très très différentes de celles qu'on a sur Terre. Alors je voudrais dire quelque chose qui, chez nous, est important, c'est la différence entre confinement et isolement. Notre ami Jean-François, qui explore les pôles, il est surtout isolé. Il n'est pas tellement confiné en termes de volume, mais il est isolé. Le confinement, c'est quand vous ne pouvez pas, vous êtes limité géométriquement. L'isolement, c'est quand vous êtes loin de toute aide possible. Et c'est vrai qu'on peut être isolé sans être confiné, confiné sans être isolé. Alors, il y a des rapprochements sur les façons de le supporter, mais quand on est isolé, en ce moment, les gens chez eux sont confinés, mais ils ne sont pas isolés. Ils peuvent appeler, ils peuvent sortir, ils peuvent aller faire leurs courses, bien sûr, selon les règles du confinement actuel. Donc, on n'a pas l'impression d'être abandonné dans ce confinement qu'on a aujourd'hui. Alors, l'explorateur qui va au pôle, c'est quelqu'un qui ose, qui pousse beaucoup plus loin l'audace, parce que il accepte de se rendre dans une région où il ne va pouvoir compter que sur lui-même. Donc c'est encore plus difficile que le confinement actuel. Donc c'est important de concevoir que le confinement qui nous touche tous en ce moment, c'est pas un isolement. On peut demander de l'aide, on peut se faire aider, on peut appeler, mais bien sûr, faut respecter la règle pour essayer de ne pas être contaminé ni de contaminer les autres.
Florence nous a rejoint. Allô Florence, bonjour.
Bonjour.
Alors faites-nous part de votre témoignage. Vous nous appelez d'où ?
Je vous appelle d'Orsay, dans l'Essonne.
Où vous êtes actuellement, comme tout le monde, confiné?
Oui, tout à fait, je suis confinée, et d'autant plus que j'ai le Covid-19. Donc je ne peux absolument pas sortir. Et ce qui se passe, c'est que mon conjoint a aussi le Covid-19, mais on ne vit pas ensemble. Et donc, on est isolés chacun avec la maladie. Et moi, j'ai l'habitude d'être isolée parce que je suis chômeuse, donc je vois personne toute la journée, habituellement. Mais par contre, lui et travaille habituellement. Donc là, il n'a pas beaucoup d'amis. Enfin, il n'en a quasiment pas en dehors de son travail. Donc là, lui, il est vraiment très isolé dans un appart tout petit. Mmh. Et il est hypochondriaque. Donc, avec la peur de pas se réveiller quand il s'endort le soir, et c'est un petit peu compliqué à gérer.
C'est-à-dire qu'actuellement, non seulement vous avez votre Covid-19 à gérer, et puis aussi les angoisses de votre conjoint, ça ajoute un peu au stress et à la difficulté de la situation.
Oui, tout à fait. Et puis en plus, c'est moi qui lui ai refilé, donc en plus, je me sens coupable.
En plus, il y a la culpabilité. Ça fait beaucoup. Florian Ferreri, qu'est-ce qu'on peut conseiller, qu'est-ce qu'on peut dire à Florence ?
Là, c'est vraiment la situation qui c'est d'un niveau, on va dire, d'anxiété supérieure, parce que aux contraintes liées au confinement, on voit bien qu'il y a des préoccupations liées à la maladie et liées à son évolution. Et les personnes qui ont été mises en quarantaine dans d'autres pathologies, notamment lors de la grippe H1N1, ont bien dit que ce qui avait été très difficile pour elles, c'était de craindre que le lendemain, elles étaient plus en difficulté. Et là, le seul pour respirer ou pour se réveiller. Et là, finalement, le seul élément qui peut être rassurant, c'est d'une part d'être informé scientifiquement et objectivement, c'est-à-dire de savoir qu'on va avoir de l'aide si jamais la température monte vraiment, si on a du mal à respirer, des secours viendront, ce n'est pas comme si on était seul au monde, et puis de commencer à réfléchir un petit peu, parce que ça renvoie à des peurs existentielles, et c'est normal, de réfléchir un peu au sens de la vie, aux priorités, et d'essayer de s'évader pour se décentrer un petit peu de la maladie, qui, pour le grand nombre de personnes, évolue très favorablement, il faut quand même le rappeler.
Florence, est-ce que vous vous sentez accompagnée comme il faut? Est-ce que vous avez des numéros de téléphone qui existent et qui vous permettent soit de vous écouter ou de vous conseiller? Est-ce que vous vous sentez un peu abandonnée dans cette épreuve?
Non, je me sens pas abandonnée, parce que quand j'ai eu moins de doutes sur le fait que j'étais contaminée, j'ai contacté mon médecin qui m'a rassurée, qui m'a vraiment expliqué quoi faire, suivant mes symptômes, etc. Donc moi, ça va. Donc j'ai essayé de transmettre ça à mon conjoint pour le rassurer, mais comme il y a des peurs qui sont parfois un peu irrationnelles, et puis le fait d'être seule et de se dire, enfin lui, il a vraiment peur de mourir et qu'il y ait personne qui s'inquiète de son état. Enfin, il a déjà vécu des situations proches de la mort plusieurs fois, donc c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Et donc moi ça va par rapport à ça, c'est vraiment je m'occupe, j'ai qu'une copine ici, donc elle va me faire des courses si j'ai besoin, donc ça c'est bon. Mais par contre c'est plus par rapport à lui et à sa situation que je m'inquiète, quoi. Même si moi je pense qu'il va pas mourir, que ça va bien se passer. Mais c'est de gérer ça au téléphone quand je l'ai. C'est un peu compliqué.
On vous souhaite beaucoup de courage, Florence. Florian Ferreri, un dernier mot. Est-ce qu'il y a des numéros de téléphone, des structures d'accueil, d'écoutants qui peuvent justement calmer, apaiser les angoisses de certains qui sont confinés et qui ont à faire face à la maladie?
Alors oui, tout à fait. Alors déjà, le numéro le plus précieux pour les gens, c'est le numéro des proches. Et pour votre ami, pour l'ami de Florence, c'est vraiment ça. C'est de savoir que s'il y a un problème, il pourra vous appeler. Et puis, il y a tout un système de numéros qui se met en place, à la fois des numéros strictement d'information. Les étudiants en médecine y participent. Il y a une grosse mobilisation pour avoir une orientation et des informations. Et puis, des numéros d'aide psychologique que je serais pas capable de vous donner là en direct, mais il y a tout à fait le moyen d'avoir un soutien psychologique à distance sans aucune difficulté, j'ai envie de dire.
Nous allons le mettre ce numéro ou ces numéros sur la page de Grand Bien Vous Fasse sur franceinter.fr. Merci Jean-François Clairvoy, merci d'avoir été avec nous pour le début de cette émission. Dans un instant, nous aurons en ligne un navigateur habitué à être confronté à l'isolement et à la solitude, le skipper François Gabart. Il viendra partager son expérience avec nous. Pour participer à cette discussion entre pros du confinement et débutants, 01 45 24 7000. Et puis bien sûr, le psychiatre Florian Ferreri et Sophie Bécherel restent avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Grand bien vous fasse.
Jukebox, jukebox, je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox, je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant les jukebox. Quand il ne se balade pas sur toi, je ne sais que faire de mes 10 doigts. Je ne sais que faire de mes 10 doigts. Alors je les claque, claque, clac, clac devant les jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox. J'ai encore pour la machine de la mitraille dans mes blue jeans, de la mitraille dans mes blue jeans. Faut que je la claque, 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 claque dedans le jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox. Claqueur de doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox. Oh Sylvie, regarde-moi. Qui est ce type qui te fait du plat? Qui est ce type qui te fait du plat? J'en ai ma claque, 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 claque de ce gars. Jukebox, jukebox. Si jamais il s'approche du jukebox, 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 je lui claquerai la gueule devant le jukebox.
C'était le claqueur de doigts de Serge Gainsbourg, bien sûr, qui nous accompagne dans cette édition spéciale de Grand Bien Vous Fasse. Je vous signale en passant que France 2 diffusera mardi, ensemble avec nos soignants, une soirée spéciale en direct pour soutenir les personnels soignants qui luttent contre le coronavirus et puis relayer des appels aux dons avec le soutien de Radio France. C'est programmé à 21h, donc mardi prochain. Grande émission de solidarité à l'appel aux dons, animée par Faustine Bollard, Daphné Burki et Michel Simès.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Daniel Fievé.
Bonjour François Gabart.
Bonjour.
Vous êtes skipper et navigateur qu'on ne présente plus en réalité, détenteur du record du Tour du Monde en solitaire, vainqueur du Vendée Globe en 2013. Vous avez publié Rêver large aux éditions Artaud. C'est le moment de nous faire rêver ou jamais. Comment vous allez d'abord, François?
Écoutez, je vais bien. Je suis confiné à la maison, en famille. Ça change un petit peu forcément le quotidien, de manière un petit peu brutale depuis quelques jours. Mais tout va bien.
Bon, alors nous sommes ravis de vous avoir au téléphone parce que vous faites partie de ceux que nous avons identifiés comme les professionnels du confinement. Quand vous êtes sur votre bateau, en pleine course, en solitaire, au milieu de l'océan Pacifique, vous êtes confiné dans votre cockpit. Est-ce que vous vous sentez vraiment confiné dans l'immensité de l'océan ?
C'est très très différent, évidemment. Déjà parce que le confinement des marins, c'est un confinement qui est choisi, qui est préparé. On y va, enfin voilà, on se prépare à ça et on fait le choix de partir. On n'est pas obligé. La grosse difficulté, je pense, pour beaucoup, hein, c'est que c'est tombé, ça nous est tombé dessus très rapidement, sans forcément pouvoir s'y préparer. Et la deuxième différence, évidemment aussi, c'est qu'on est sur un bateau qui bouge, donc on est au grand air quand même, on est au milieu de l'océan, on se déplace, on sort la tête du cockpit, il y a une grande bouffée d'oxygène, alors que là, pour beaucoup d'entre nous, on est à l'intérieur de maisons, d'appartements, et donc on est beaucoup moins mobile que ce qu'on peut être sur un bateau.
Alors un bateau qui bouge, mais parfois qui secoue, hein, même, parce que ce bateau avec lequel vous avez battu le record du Tour du Monde en 42 jours, 16 heures, 40 minutes et 35 secondes, qui est arrivé le 17 décembre 2017, il a parcouru 52 000 kilomètres en ce temps record, donc ça avance à toute blinde sur les océans, et vous à l'intérieur, vous avez un peu l'impression d'être dans une machine à laver, donc c'est un isolement dans des conditions particulièrement rudes tout de même.
Je dis pas que c'est pas plus confortable. C'est oui. différent. C'est vrai qu'évidemment, quand on est chez soi, quand on a le confort et cette chance, hein, quelque part, d'être protégé, d'être dans l'effet un univers qui bouge pas, où pour beaucoup, je l'espère évidemment, on a à manger, à de quoi se laver, de quoi dormir. Enfin, c'est un confort. C'est confort parce qu'on perd parfois un petit peu en bateau, mais on découvre d'autres choses. Bah, les choses sont différentes. Après, c'est sûr que il y a probablement des sensations, il y a probablement des émotions qu'on rencontre dans les deux cas, un confinement à terre comme on peut le vivre aujourd'hui chacun chez soi, et un confinement de manière différente qu'on peut avoir sur un bateau. On va forcément au niveau émotionnel, au niveau mental, vivre des choses qui sont un peu similaires.
Et alors, à bord de ce bateau qui secoue, on imagine que le sommeil est extrêmement perturbé. Comment, au bout de plusieurs semaines en mer, en dormant très peu, le corps est à rude épreuve, il faut en fait gérer le physique et le psychologique. Donnez-nous vos trucs. Vous avez été confronté aux plus rudes conditions, en tout cas plus rudes que celles auxquelles nous sommes confrontés. Vous devriez pouvoir nous aider à tenir, François Gabart.
Alors, bah, si j'ai un conseil, c'est dormez bien, dormez longtemps, profitons-en, parce que bah, évidemment quand on est en course large en solitaire, on dort très peu. Et c'est vrai que ce mélange donc d'isolement sur un bateau plus la fatigue fait qu'on se retrouve à vivre des émotions très très fortes. Alors c'est une expérience assez fabuleuse, hein, de pouvoir vivre ces émotions-là, mais c'est excessivement difficile à gérer. Et donc là, dans la difficulté qu'on a tous face à ce confinement, si en plus on rajoute de l'absence de sommeil, là ça va peut-être être compliqué à gérer. Donc dormez bien, essayons de pas justement décaler les rythmes qu'on a dans la vie normale, essayons de dormir aux mêmes heures, essayons de mettre des routines, de se réveiller tôt le matin pour aller, essayer de faire comme si on allait au travail. Il y en a certains qui ont la chance de le faire en télétravail, d'autres non, mais essayons de garder ces routines et de bien dormir, bien prendre soin de soi, essayer de bien manger, essayer de faire du sport comme on peut, parce que c'est forcément beaucoup plus difficile, mais voilà, essayer de bien prendre soin de soi, parce que le mental va être forcément mis à rude épreuve ces prochaines semaines.
Sophie Bécherel.
Une course au large, c'est pas forcément toujours à fond les ballons. S'il y a un manque de vent, quand on est dans une situation de pétole, est-ce que là, le confinement, il devient plus lourd à supporter?
Ouais, c'est vrai que j'y pensais avant que vous m'appeliez. J'essayais d'imaginer un peu les situations qui peuvent être similaires. Et j'affichais, moi, la situation que je vois la plus proche quand on est en course au large, c'est quand on a une grosse avarie, je pense à un dématage. Ouais. Donc on est dans un schéma de course. On a des repères, etc. Puis soudainement, brutalement, il y a une casse. Alors il y a forcément de la déception. C'est dur à gérer. Et on se retrouve du coup sans mât, sans voile, avec un bateau qui avance plus ou très très lentement. Et du coup, on va se retrouver parfois à avoir plusieurs journées à vitesse très réduite, en étant hors course, pour essayer de rejoindre un port. Et je pense que c'est peut-être à ce moment-là où on se sent bloqué du bateau, parce qu'à ce moment-là, on n'a qu'une envie, c'est soit de retrouver une voile pour aller vite, soit ça serait d'être à terre, de retrouver ses proches, de pas vivre, de pas être bloqué sur le bateau. Et là, on n'a pas le choix. Mais parfois, alors moi, ça m'est jamais arrivé très très longtemps, quelques jours, mais je sais que pour certains marins, quand on est dans les mers du Sud, si on dématte quelques jours après l'Afrique du Sud, bah, l'escape la plus proche, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et là, ça peut être des semaines de mer, où on n'est plus en course, on est bloqué, on n'avance pas comme on voudrait avancer, et malgré tout, on n'a pas le choix. De toute façon, on peut pas. Et là, c'est un peu pareil, on n'a pas le choix quelque part. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, il faut faire avec. Et je pense que c'est peut-être ces moments-là qui sont les plus proches de ce qu'on peut vivre en ce moment à terre pendant cette crise.
Et François Gabart, le retour à la vie normale après l'isolement, la solitude, toutes ces épreuves, on est toujours frappé quand on voit les navigateurs rentrer au port, acclamés par des milliers de personnes. On se dit, tout ce monde, alors qu'ils ont vécu seuls, reclus pendant plusieurs semaines, est-ce que la transition se fait facilement? Est-ce qu'il y a, il faut une sorte de sas de décompression quand on sort de son isolement?
Bah, c'est une transition qui est très très brutale, mais qui est fabuleuse et merveilleuse. Et quelque part, si jamais pour essayer d'avoir justement ce quelque chose de très positif pour tenir confiné dans les jours qui viennent, bah, il faut se dire que à un moment donné, on va sortir et la balade qu'on ne peut plus faire, les gens qu'on ne voyait plus, ben on va pouvoir les re-rencontrer, on va pouvoir aller se promener, on va pouvoir aller bouger. Et ça sera génial, parce que bah, finalement, peut-être qu'on aura un petit peu perdu cette attention qu'on a sur certains plaisirs, sur certaines choses qu'on peut faire dans la vie de tous les jours et qu'on va pouvoir faire à nouveau un jour. Hein. Évidemment, on va sortir de ce confinement. Alors, on ne sait pas quand, et c'est ça qui est très difficile à vivre ou à gérer, mais si on le fait bien tous ensemble, à un moment donné, la situation va changer forcément. Et on va redécouvrir peut-être des choses assez extraordinaires qu'on ne pensait pas faire avant.
Un grand merci à vous, François Gabart, pour ces mots pleins d'espoir. On va discuter dans la suite de cette émission, notamment à l'après, avec vous, hein, Florian Ferreri. On verra hein, si dans notre cas, après la période que nous traversons, eh bien, quand tout sera fini, est-ce que certains risquent d'avoir du mal à retrouver leur vie d'avant? On abordera cette question dans la suite de cette émission. Après le flash, nous rejoindra aussi Nathalie Guibert, journaliste au Monde. Elle a vécu une expérience de confinement hors du commun. Un mois enfermé dans un sous-marin nucléaire d'attaque, seul parmi 75 hommes. Elle va nous raconter comment elle a réussi à s'adapter et puis comment s'organise la vie hors du temps de ces sous-mariniers qui sont baignés par une lumière jaune artificielle. Évidemment, ils ne voient pas la lumière du jour. Nous serons également dans la deuxième partie de la deuxième heure avec Catherine Tourette-Turgis en ligne. Elle est chercheuse au Conservatoire National des Arts et Métiers, et elle nous dira ce que révèlent les premières études menées sur l'impact psychologique du confinement dans la population chinoise suite à l'épidémie de Covid-19. À tout de suite.